Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, exprimez-vous en direct sur l'antenne d'RFI dans 30 minutes. En tout cas, vous allez pouvoir drresser un état des lieux de la situation en Centrafrique, puisque cela fait quasiment un an, jour pour jour, que le régime du président François Bozizé a été renversé par la coalition rebelle de la Séléka. Depuis, vous le savez, le pays a été emporté dans une spirale de violence communautaire et interreligieuse, provoquant du coup une grave crise humanitaire. On dénombre à peu près 1 million de déplacés et de réfugiés, le tout sous le regard impuissant des autorités de transition, mais aussi de la communauté internationale, malgré la présence tout de même de 2000 Français et de 6000 soldats africains déployés sur le terrain depuis maintenant 6-7 mois. Alors, un an après le début de cette crise, comment analysez-vous la situation en Centrafrique? Comment jugez-vous d'ailleurs l'action de la communauté internationale? Vos réactions et vos témoignages, surtout vous qui nous écoutez en ce moment en Centrafrique, 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France, et n'oubliez pas les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous avec les journalistes d'RFI, toute la rédaction ici à Paris, mais aussi nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde, ils se mobilisent pour répondre à vos questions, pour mieux comprendre l'actualité. Alejandro Valente, le chef du service des sports d'RFI, est déjà à mes côtés. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Question football, à chaque fois que vous venez dans ce studio, c'est pour parler football, mais il n'y a pas que le foot dans le sport, nous le savons bien, mais c'est le sujet qui passionne nos auditeurs. Hervé, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Douala, vous nous appelez du Cameroun, et vous avez des questions concernant le mondial de football qui se tiendra au Qatar en 2022 avec de nouvelles accusations de corruption.
Oui, en effet Juan, je voudrais savoir si les accusations portées sur l'ex-vice-président de la FIFA, Jack Warner, sont fondées.
Alors, c'est vrai que
le quotidien. Si c'est le cas.
Oui, si c'est le cas.
Et si c'est le cas, quelles sont les sanctions qui l'encourent?
Alors, Alejandro Valente, énième polémique. Le quotidien britannique Daily Telegraph relance la thèse selon laquelle le Mondial 2022 a été acheté par le Qatar. Jack Warner est désormais dans le collimateur, aussi bien de la presse que même du FBI. On va en parler dans un instant. Il était donc le vice-président de la FIFA. Et à l'époque du vote, il aurait perçu de l'argent du Qatar?
Oui, en fait, cette accusation s'ajoute à d'autres accusations de corruption qui les visaient déjà personnellement et qui avait motivé que la FIFA le contraigne à la démission il y a 3 ans. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà un passif en la matière, et ça s'ajoute un petit peu aux accusations qu'il encourait déjà auparavant, tout comme celui qui aurait été le lien lui permettant de toucher cet argent, dont Mohamed Bin Hammam, qui était le président de la Confédération asiatique qatarien, et qui, lui, a été suspendu à vie par la FIFA pour des faits similaires. Donc, pour la FIFA, cette affaire, évidemment, s'ajoute à d'autres, mais elle est relativement moins gênante dans la mesure où elle touche deux personnalités qui ont déjà dû quitter la FIFA pour des affaires de corruption. Donc, c'est un visage, en fait, Joseph Blatter, le président de la FIFA, c'est de demander à la commission d'éthique indépendante qu'elle a créée justement pour essayer d'éclaircir toutes ces accusations, dirigées par un avocat américain, Michael Garcia, de s'il y a des documents prouvant ces faits, de faire un complément d'enquête concernant cette affaire.
Mais si c'est le cas, il y aura des poursuites engagées par la FIFA ou pas?
Bah, c'est ce que la FIFA promet. Pour l'instant, Joseph Blatter s'est réfugié derrière l'enquête menée par Michael Garcia, et il dit « je ne peux pas faire des commentaires tant que cette enquête ne sera pas achevée ». Donc ce qui est plutôt pratique pour lui, puisque cette enquête risque de durer encore bien longtemps.
Autre question au standard, Hervé.
Oui, Juan, je voudrais savoir quel est l'impact d'un tel scandale sur l'image de la FIFA.
C'est vrai qu'une fois de plus, l'image de la FIFA est écornée, Alejandro.
Oui, mais disons que je pense que cette affaire ne va pas beaucoup étonner l'opinion publique, dans la mesure où ces genres d'accusations étaient déjà monnaie courante au sein de la FIFA. Ce qui est plus problématique, c'est qu'on ne voit pas disons, la FIFA évoluer dans sa gouvernance. On avait dit que, bon, que la FIFA allait en tirer des conséquences en matière de gouvernance. Une commission avait été créée à cet effet. Une de ses membres, Alexandra Braguet, une Canadienne, a démissionné il y a quelques temps en disant qu'en fait, il s'était de faire valoir car la FIFA ne suivait aucune des recommandations qui émanaient de cette commission. Et ce Mondial du Qatar 2022 a d'autres passifs. On a parlé de la condition des travailleurs. La FIFA espère au moins que ces accusations contraindront l'Émirat à améliorer les conditions de travail des ouvriers qui sont justement engagés sur les chantiers de la Coupe du Monde et que cela, à terme, pourrait améliorer un petit peu cette image aujourd'hui écornée. D'autant plus qu'il y a une autre Coupe du Monde, celle de 2018, qui doit avoir lieu en Russie avec les événements de Crimée. Évidemment, cette Coupe du Monde est aussi aujourd'hui la cible des critiques dans de nombreux endroits du monde.
Ouais, merci beaucoup Alejandro Valente d'être venu répondre à Hervé, qui était en ligne de Douala au Cameroun. 33 9 693 693 70. Une question qui est souvent revenue au standard depuis le transfert de Charles Blégoudé à la Cour pénale internationale. Ibrahim, bonjour.
Bonjour, Anne.
Vous nous appelez de Bamako, au Mali, nous vous écoutons.
Oui, le gouvernement ivoirien a accepté le transfert de Charles Blégoudé devant la Cour pénale internationale, alors qu'auparavant il avait refusé de transférer Mme Gbagbo, visée par les mêmes chefs d'accusation. Alors, comment pourrait-on interpréter cette différence de traitement et pourquoi la justice ivoirienne n'est-elle pas à mesure d'assurer un procès équitable pour Mme Gbagbo, mais pas pour Charles Blégoudé?
Ah, bonne question. Différence de traitement, c'est vrai, Simone Gbagbo, la femme de l'ex-président, est également visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et comme Charles Blégoudé, elle est soupçonnée de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale. Bonjour Stanislas Zaïchimier.
Bonjour Johan, bonjour Ibrahim.
Vous êtes notre correspondant permanent à Abidjan. Pourquoi les autorités ivoiriennes estiment-elles pouvoir assurer un procès équitable à la femme de l'ex-président Laurent Gbagbo et non à Charles Blégoudé?
Écoutez, selon le ministre ivoirien de la Justice, Nyenema Koulibaly, les dossiers judiciaires sont traités au cas par cas. Le porte-parole du gouvernement ivoirien, Bruno Koné, dit la même chose. Pour lui, chaque cas est différent. Dans le cas de Simone Gbagbo, les procédures judiciaires ouvertes en Côte d'Ivoire sont à un stade avancé. Mais il y a aussi un autre aspect que les autorités prennent en compte pour garder Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ne pas donner l'image d'un acharnement contre le couple Gbagbo, comme l'ancien président Laurent Gbagbo est déjà aux mains de la CPI. Le pouvoir ne veut pas transférer une femme à la haie pour des raisons culturelles, disent certains ministres du gouvernement ivoirien.
Et voilà. Pourtant, comme le disait Ibrahim à l'instant, la CPI poursuit Simone Gbagbo et Charles Blégoudé pour les mêmes charges de crimes contre l'humanité.
Bien sûr, mais le gouvernement dit que Charles Blégoudé était déjà dans le collimateur des Nations Unies. Il faut rappeler qu'il était sous sanction, même longtemps avant la crise post-électorale. Il lui était notamment interdit de voyager. Le pouvoir et des ONG internationales considèrent que Charles Blégoudé comme l'un de ceux qui ont le plus contribué aux violences durant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Évidemment, pour le gouvernement, ça ne veut pas dire que Simone Gbagbo est moins suspecte. Mais le pouvoir considère que transférer Charles Blégoudé à la CPI a moins d'impact négatif sur la réconciliation que transférer Simone Gbagbo.
Oui, en tout cas, la décision du gouvernement ivoirien de transférer Charles Blégoudé vers la haie, la Cour pénale internationale a quand même été une surprise pour tout le monde. On le voit bien ici et là dans les réactions sur place. Qu'est-ce qui a pu amener les autorités à prendre une telle décision?
Oui, une surprise d'autant plus que l'argument avancé en septembre dernier pour refuser de livrer Simone Gbagbo à la CPI, c'était que la justice ivoirienne était désormais apte à juger toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes pendant la crise post-électorale. Comme Charles Blégoudé était aux mains des autorités ivoiriennes depuis plus d'un an et que la CPI le réclamait officiellement depuis 6 mois, certains pensent que c'est la récente publication des photos de l'ex-leader de la galaxie patriotique dans une cellule de la direction de surveillance du territoire, des images laissant penser à un mauvais traitement, qui a signé son transfert vers la CPI.
Ah, intéressant, effectivement. On a répondu à vos questions, Ibrahim.
satisfait.
Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée à Bamako, au Mali. Merci Stanislas Daïchimier. Bonne journée également à Abidjan où il est 8h20. 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions et vous le voyez, vous le constatez chaque matin, toutes vos questions nous intéressent. Tous les sujets qui vous interpellent nous intéressent également. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et n'attendez pas surtout le début de l'émission pour nous contacter. Faites-le tout au long de la journée. Le standard reste évidemment ouvert. Et voilà, nous avons le besoin du temps pour préparer cette première partie. Boniface Vignon du Service Afrique est déjà à mes côtés, mais on va vous donner la parole dans un instant, Boniface, puisque d'abord nous accueillons Muriel Pomponne, qui est notre correspondante en Russie. Bonjour Muriel.
Bonjour Juan.
Merci d'être en direct. Khalilou, qui est à Cotonou, a une question à vous poser. Bonjour Khalilou.
Oui, bonjour Juan et bonjour Muriel.
Nous vous écoutons.
La semaine passée, les représentants du MNLA ont été reçus à Moscou par le ministre des Affaires étrangères russe. Alors, ma question est de savoir, lorsqu'on connaît la distance qui sépare la Russie du Mali, quels peuvent être les intérêts de la Russie à cet endroit?
Ah, bonne question. Muriel Pomponne, effectivement, il y a quelques jours, une dizaine de jours à peine, des membres du mouvement de libération de l'Azawad se sont rendus à Moscou pour s'entretenir, non pas avec le ministre des Affaires étrangères, comme le disait à l'instant Khalilou, mais avec le représentant spécial du président Poutine pour l'Afrique. Comment expliquer cet intérêt de la Russie pour le dossier du nord du Mali?
Eh bien écoutez, c'est pas la distance géographique qui fait l'intérêt de tel ou tel pays pour un dossier. Donc effectivement la Russie est loin de l'Afrique, mais la Russie effectivement n'a pas vraiment, il faut le dire, l'intention de se pencher sur le dossier malien, parce que la Russie ne s'intéresse plus tellement à l'Afrique, hein. Elle s'y intéressait à l'époque soviétique, mais c'est un peu fini, contrairement à l'Europe, voire même aux États-Unis, qui, vous le savez, ont des bases militaires en Afrique. Mais donc depuis que l'URSS n'existe plus, bien Moscou ne cherche plus à avoir d'influence sur le continent noir. La Russie est beaucoup plus tournée vers l'Asie. Mais la Russie, il ne faut pas l'oublier, est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et a même un droit de veto. Et donc, à ce titre, sa voix compte sur tout le dossier. Et c'est sans doute pour ça que le MNLA a voulu rencontrer des responsables russes.
Oui. Alors, cette délégation était conduite par Bilal Ag Asherif, qui est le chef politique du MNLA. Vous avez une autre question, Khalilou?
Oui. La deuxième question est de savoir que pourrait apporter la Russie comme négociation entre le MNLA et le gouvernement malien.
Ouais. Malgré tout, Muriel, c'est vrai, vous dites que bon, la Russie ne s'intéresse plus au continent africain. Malgré tout, les Russes ont quand même accepté de recevoir cette délégation du MNLA. Comment faut-il l'interpréter, l'expliquer? À quoi peut-on s'attendre désormais de la part des Russes?
Écoutez, la Russie ne veut pas jouer un rôle de médiateur entre les rebelles et le gouvernement malien, là il faut être clair. Mais je vous le disais, la Russie est donc membre du Conseil de sécurité, c'est important. Donc le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'était rendu à Moscou quand il était candidat. Il y a une force de stabilisation des Nations Unies au Mali, il ne faut pas l'oublier. Et le MNLA, donc lui, s'est rendu en Russie parce qu'il tenait à faire connaître son point de vue à ce membre du Conseil de sécurité. Le MNLA veut en quelque sorte montrer une existence sur la scène internationale. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut dire que le MNLA a un peu réussi son coup, si je puis dire, car le Mali n'était pas prévenu de cette visite à Moscou et donc Bamako l'a assez mal pris. Il semble que cette visite ait été négociée par le MNLA avec l'ambassade russe à Rabat. Donc, vous le savez, Juan, le ministre malien des Affaires étrangères a finalement convoqué l'ambassadeur de Russie à Bamako, parce qu'il n'était pas content du tout. Mais là, il faut être clair aussi, Moscou a tout de suite rassuré Bamako. Moscou est attaché à l'intégrité des frontières du Mali. C'est d'ailleurs ce que Moscou a dit à la délégation du MNLA et a répété au ministre malien des Affaires étrangères. La Russie est favorable à la poursuite du processus engagé avec les accords de Ouagadougou. Voilà. Honnêtement, je ne pense pas que l'engagement de la Russie ira beaucoup plus loin. Il faut quand même garder en tête que la Russie ne soutiendra pas un mouvement qui risque de déstabiliser la région, parce que Moscou a très mal vécu les révolutions arabes et s'inquiète d'un risque de terrorisme islamique. C'est d'ailleurs pour ça que la Russie n'est pas hostile à l'opération Serval, à condition évidemment que cette opération ne dure pas trop longtemps. Pour l'instant, la Russie n'a rien à redire à la façon dont ça se déroule. Donc pour conclure sur cette visite du MNLA à Moscou, je dirais que c'est plutôt au MNLA que cette visite a apporté quelque chose, car ça lui a donné une certaine représentativité, entre guillemets. Mais Moscou ne va pas beaucoup s'impliquer dans ce dossier.
Merci Muriel Pomponne de cet éclairage. Merci d'avoir répondu à Khalilou. Et on profite, Muriel, également pour remercier Bertrand Eclair, avocat Côté, technicien RFI, pour les moyens techniques et cette liaison avec vous. 33 9 693 693 70, je vous le disais il y a un instant, Boniface Vignon du service Afrique est à mes côtés. Bonjour Boniface.
Bonjour Juan.
Vous suivez le dossier burundais, la situation politique au Burundi. Nous avons une question qui nous vient des États-Unis. Bonjour Bakary. Et
bonjour Juan.
Vous êtes dans l'Arkansas, c'est bien ça?
Oui.
Très bien, on vous écoute, Bakary.
Oui, merci de m'avoir entendu. Le 8 mars dernier, il y a eu une manifestation de l'opposition burundaise à Bujumbura. Mmh. À la suite de cette manifestation, plusieurs militants de l'opposition ont été arrêtés et le gouvernement a parlé d'insurrection armée. Donc ma question est de savoir, il y a eu un lourd réquisitoire de la part du ministère public, donc lors du procès la semaine passée. Et ma question est de savoir, que s'est-il réellement passé lors de ces événements du 8 mars et qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui a motivé le ministère public à prononcer des peines aussi lourde, allant jusqu'à la perpétuité de plusieurs des militants.
Effectivement, 48 militants du MSD, qui est un parti d'opposition, condamnés à des peines allant de 2 ans de prison à la perpétuité. Boniface Vignon, les événements du 8 mars, dont parlait un instant Bakary, sont considérés par les autorités comme les plus violents affrontements survenus à Bujumbura, la capitale, depuis la fin de la guerre civile en 2006. Que s'est-il réellement passé ce jour-là? Pourquoi parle-t-on de mouvements insurrectionnels?
Pour bien comprendre ce qui se joue au Burundi et pourquoi il y a subitement un regain de tension, nous devons avoir présent à l'esprit les élections générales qui doivent se tenir l'année prochaine, en 2015. Élection à laquelle le président sortant, Pierre Nkurunziza, n'a jamais fait mystère de sa volonté de se présenter, malgré la constitution qui ne le lui permet pas. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement à la manifestation du 8 mars? C'est votre question et c'est la question donc de Bakary. Mm-hmm. Les faits tout d'abord, ce samedi 8 mars, des militants du MSD, le Mouvement pour la Solidarité et le Développement, qui convergeaient pour un jogging collectif vers le centre-ville de la capitale, sont dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police. Environ 200 d'entre eux trouvent refuge au siège de leur parti, mais dans leur fuite, prennent 2 policiers en otage avant que les forces de l'ordre ne donnent l'assaut. Les affrontements durent plus d'une heure et font 20 blessés parmi les militants du MSD, dont plusieurs par balle, 5 dans les rangs de la police. La police qui accuse les opposants d'avoir ouvert le feu les premiers. Ce sont 11 personnes parmi les militants qui sont arrêtés, sont alors inculpés pour rébellion, outrage et violence sur dépositaires de l'ordre public et pour participation à un mouvement insurrectionnel armé. Un mandat d'arrêt est également émis contre Alexis Sindouillé, en fuite depuis, pour participation à un mouvement insurrectionnel armé en tant que leader du mouvement.
Voilà pour les faits. Ça, ce sont les faits. Alors ensuite, on a suivi également sur notre antenne un procès.
Oui, tout à fait. Et il s'en est suivi un simulacre, moi je dis, de procès dont le verdict a été donné vendredi dernier. Je dis simulacre de procès car les avocats des personnes inculpées ont refusé de plaider et ont quitté le tribunal qui a prononcé les peines. 21 personnes sont ainsi condamnées à la perpétuité, 10 à 10 ans de prison, 14 écopes de 5 ans et 3 mineurs sont condamnés à 2 ans. Au total, donc, vous le disiez, Juan, 48 personnes sont condamnées et 22 acquittées. Pour François Nyamuya, le secrétaire général du Mouvement pour la Solidarité et le Développement, ce verdict n'a aucun sens, et je le cite, « c'est une farce judiciaire, une violence institutionnelle et judiciaire orchestrée par le pouvoir ». Le président de l'Association pour la protection des prisonniers et des droits humains, Pierre Claver Mbomimpa, dénonce, lui, un procès politique. Il estime que tout a été écrit d'avance. C'est un réquisitoire dur, très dur, mais c'est pour servir d'exemple, pour que plus personne ne tente de déstabiliser ce pays, a de son côté déclaré un magistrat qui a requis l'anonymat.
Oui. Bakary, posez votre dernière question et on vous retrouvera évidemment juste après le journal pour y répondre avec Boniface Vignon. Votre seconde question sur le Burundi.
Oui, ma seconde question c'est de savoir, le MSD a été interdit d'activité. Mmh. Et donc, c'est de savoir qu'est-ce qui motive encore gouvernement burundais
à suspendre ce parti qui est quand même l'un des principaux partis de l'opposition burundaise. On va en parler avec Boniface Vignon juste après le journal dans 10 minutes. Et on se retrouvera évidemment après pour parler de la situation en Centrafrique. À tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent.